Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les attentoirs.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission. On avait dit sérieux, les filles,
là. Je suis
posant des questions. Avec tout ça,
le 7 février 2013, les entonnoirs ont posé leur studio au gymnase de Lille pour la conférence organisée par la délégation départementale du Nord de l'APF, l'Association des paralysés de France. Nous y avons rencontré plusieurs intervenants, familles et associations pour débattre autour du thème « L'inclusion dans tous ses états ». Voici un résumé de ces échanges pour cette 295e émission des entonnoirs.
Donc bonjour monsieur, heureuse de vous accueillir au sein donc des entonnoirs et sur cette journée sur l'exclusion.
Non, l'inclusion.
L'inclusion, pardon. Merci Ahmed, j'ai fait une petite erreur là. Donc je vais simplement vous demander de vous présenter voilà, en quelques mots.
Je suis Patrice Tripoteau, je suis directeur général adjoint de l'APF sur le plan national. Et donc, ma mission, avec des équipes et en lien avec notre conseil d'administration, c'est d'être en lien en permanence avec toutes les administrations, les ministères, le gouvernement, pour faire avancer les lois sur l'handicap et les dispositifs donc concernant les personnes en situation de handicap et leurs familles.
Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il existe encore un ministère de... sur le handicap. Je sais qu'il y en avait eu un à un moment donné.
Oui, donc aujourd'hui, oui. Il y a donc dans le nouveau gouvernement, hein, depuis oui. Le mois de juin, un ministère délégué aux personnes handicapées et contre l'exclusion sociale.
Et je voulais savoir, pensez-vous qu'il y a beaucoup à faire en matière d'inclusion et d'intégration sociale des personnes handicapées ? Est-ce qu'il y a encore du chemin à faire ?
Oui, il y a du chemin à faire, mais ce que l'on constate, c'est que bon, on peut continuer et on va le faire à combattre pour qu'il y ait des lois qui améliorent soit les droits des personnes ou l'environnement hein, des personnes. Mais et c'est l'enjeu de ces états régionaux de l'inclusion dans région Nord-Pas-de-Calais et ici à Lille, c'est sur le terrain. C'est-à-dire que régulièrement, hein, vous devez entendre des personnes, que ce soit des personnes en situation de handicap, qui disent ben, j'étais exclu d'une école, j'étais exclu d'un emploi, mais pourtant les textes existent. Oui. Donc voilà. Et puis, par ailleurs, on entend aussi des chefs d'entreprise, des enseignants qui disent mais nous, on est prêts à accueillir, mais on ne sait pas comment. Donc là, c'est plus les textes, c'est plus les lois. Donc c'est vraiment la rencontre donc entre les acteurs. Et je trouve que l'initiative de votre radio permet de permettre l'échange, mais dans la proximité. Parce que je pense que l'inclusion, c'est d'abord aussi que Absolument. Les gens se parlent au plus proche d'eux-mêmes. Donc voilà.
Ce qui fait la particularité de cette journée, c'est que vous donnez la parole aux premiers concernés, c'est-à-dire aux personnes en difficulté, aux personnes handicapées. Et tout à l'heure, un monsieur disait, un responsable disait, c'est comme ça qu'ils se feront entendre par les politiques. Vous pensez la même chose ?
Oui, ben c'est effectivement, il est important que les personnes s'expriment par elles-mêmes de leurs difficultés, qu'elles disent ce qu'elles souhaitent. Il y a tous les niveaux, donc c'est la force. Et là aussi, on le voit pas que dans le secteur du handicap. On commence aussi à voir des personnes qui sont dans l'exclusion sociale, qui, en échangeant avec les associations qui les rassemblent, essayer de faire en sorte qu'elles-mêmes aussi puissent s'exprimer. Voilà et vis-à-vis des politiques, parce que c'est pas la même chose qu'on est sur une discussion technique, administrative, financière, que quand on est sur le vécu des personnes.
D'accord.
Parce que là, ça peut être un autre levier On peut sortir tout un argumentaire, c'est pas possible financièrement, c'est pas possible techniquement, c'est pas possible. Mais sauf qu'en face de nous, on a quelqu'un qui va mal et que c'est pas acceptable qu'elle soit exclue. Donc là, on peut. C'est là que nous, on a un slogan qui s'appelle « bouger les lignes ». C'est-à-dire, certes, il n'y a pas d'argent, certes, il n'y a pas ceci, certes, c'est compliqué. Sauf que si on est sur la question de la rencontre, sur la question de l'humanité, là, il se passe quelque chose. Et donc là, on peut faire bouger des lignes et c'est la rencontre directe. Parce que un politique, une administration, c'est rencontre en face de lui quelqu'un qui va lui parler d'argent, de règles, de lois. Bon, bah là, il va dire, on est sur le même terrain. Quand on est sur la rencontre entre deux hommes, là, il peut se passer quelque chose. Et là, on peut enclencher des choses différemment. Donc, il faut le tout. Mais ça, c'est un levier important.
Bien, vous remercie, monsieur.
En tout cas, merci. Oui, mais... Sauf si vous avez quelque chose à dire.
Oui, pour vous, j'ai quelque chose à dire.
Allez-y.
Parce que, aussi, on peut être responsable associatif, mais c'est surtout les expériences. Et comme la vôtre, comme cette radio en entonnoir, je crois que c'est important parce que ça permet à des personnes, quelles qu'elles soient, de pouvoir accéder partout et faire tout ce qu'elles ont envie. Donc, si vous êtes porteur de cette radio, c'est que, je m'adresse à des gens qui interrogent, interviewent. Et donc, quand je suis derrière ce micro, j'ai l'impression d'être dans devant n'importe quel micro de n'importe quel média. Il n'y a pas de différence. Et donc, ça, c'était aussi ce message que je voulais vous envoyer parce que c'est ça, l'inclusion. C'est-à-dire, il faut oser être partout où on a envie et que, voilà, il n'y a pas la place des uns et des autres dans tel ou tel endroit, dans une case. Et que d'être journaliste, de porter un projet de radio, c'est ça aussi, la vie inclusive. Et vous faites changer le regard des personnes parce que là, vous surprenez, on ne vous attendrait pas là.
Nous partageons entièrement ce propos.
Vous êtes très bon, merci. Êtes très bon aussi.
Merci. Merci, monsieur.
Brigitte Blachon, je suis maman de Lily qui a 8 ans et handicapée moteur et dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne et qui communique à l'aide d'un code de communication avec des pictogrammes.
Moi, j'aurais une petite question à vous poser. Ça fait combien de temps que votre enfant est-ce que c'est de naissance ou est-ce que c'est venu après?
C'est de naissance, six mois après la naissance.
6 mois. Et je voudrais savoir, quelle a été votre réaction quand vous avez appris l'handicap de votre petite fille?
Déjà, je n'ai pas compris tout de suite, mais elle a été prise en charge assez rapidement par le CAMS. Et après, tout s'est enchaîné.
J'ai une question pour vous. Pensez-vous que la société répond à toutes vos attentes en tant que mère d'une personne handicapée? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer dans la société pour intégrer justement les personnes handicapées?
Oui, tout à fait. Je crois que c'est aussi l'objet de cette journée.
Vous pouvez donner un exemple? L'accessibilité,
L'accessibilité.
L'intégration dans les écoles.
L'intégration dans les écoles, la formation. Quand on est parent d'un enfant porteur de handicap, en fait, on devient une entreprise. En fait, on doit chercher toutes les informations sans cesse et tout le temps.
Et vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup d'informations par rapport aux droits et aux droits et par rapport à ce qu'on peut faire par rapport aux associations vis-à-vis des handicapés?
Les informations, elles sont partout, mais elles sont dans toutes les associations, donc c'est très difficile. Chacun fait dans son coin.
Moi, j'avais une question. Je voulais savoir, votre enfant est-elle scolarisée dans un établissement spécialisé ou éventuellement, est-ce que vous occupez de votre petite fille à temps complet, on va dire?
Non, elle est scolarisée dans un établissement spécialisé depuis qu'elle a 2 ans et demi. Et avant, elle est allée en crèche un petit peu, où là, on a déjà démarré un peu déjà l'inclusion.
Je vous remercie.
Est-ce que justement ces problèmes peuvent être guéris, ou alors est-ce qu'elle peut stabiliser au niveau de la maladie, ou est-ce que ça s'empire, ou est-ce que ça stagne?
Non, aujourd'hui elle ne peut que progresser.
Et justement, une journée où, comme aujourd'hui, où on parle de l'inclusion, est-ce que vous, en tant que parent, ça vous apporte de l'espoir? C'est parler des personnes qui ont des difficultés pour les intégrer dans cette vie sociale. Est-ce que vous, l'espoir renaît en vous?
Oui, tout à fait. C'est important pour que le public, le grand public, que tout le monde puisse voir le handicap différemment que dans la différence, puisque là, on est plutôt dans l'indifférence dans la société d'aujourd'hui. Et grâce à des films et puis grâce à tout ce qui est fait aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux être porteur de handicap en 2013 qu'il y a 20 ans.
Je voudrais vous poser une question, moi, concernant votre petite fille. Comment elle vit la chose, votre petite fille? Comment, je veux dire, au point de vue psychologique, psychique, comment elle vit tous les jours ça, d'être dans un fauteuil, de devoir dépendre des autres, en fait?
Alors, elle a 8 ans, donc il y a 10 jours difficiles. Hein. Elle sait tout à fait qu'elle a des frustrations. Elle a tout à fait compris ce qu'elle avait. Ce qu'elle souhaite, c'est ne pas être... Elle souhaite qu'on la reconnaisse comme une petite fille de 8 ans qui est porteuse d'un handicap et qui a des difficultés, mais qui n'est pas que handicapée. Et sa difficulté, elle, qui ne communique uniquement par picto, c'est de... Quand on veut lui demander quelque chose, on s'adresse à elle plutôt qu'à moi, par exemple, et qu'on la considère comme une petite fille de son âge, puisqu'elle a la compréhension d'une petite fille de son âge de 8 ans.
D'accord.
Je voudrais vous parler de l'accompagnement social et puis au niveau du camp infirmier. Est-ce qu'il y a des infirmiers qui aident votre fille dans la vie de tous les jours pour l'aider moralement? Est-ce que ça s'est pas encore mis en place?
Non, ma fille, elle va en structure en journée et c'est moi qui assure le soir quand elle rentre.
La garde. Très bien.
Je voudrais revenir sur ce que discutait Ahmed tout à l'heure par rapport justement au fait que vous disiez que la différence était mal acceptée, elle faisait peur, tout ça. Que vous étiez pas forcément bien accompagné en tant que parent par rapport aux informations, tout ça. Aujourd'hui, si un parent devait être dans la même situation que vous, vous lui conseillerez de se rapprocher vers quelle association, enfin quelque chose de pratique? Du coup, on peut en profiter, vous allez passer à l'antenne, donc si vous avez des petits conseils à donner, des associations sur lesquelles on peut se rapprocher, ça serait intéressant.
Alors déjà, pour se rapprocher d'une association, il faut en avoir connaissance. Donc qui déjà au départ peut nous donner les informations? En fonction du parcours de chacun. Donc, moi, j'ai eu la chance au CAMS de rencontrer des gens qui m'ont donné des informations. Et puis après, moi, j'ai été assez curieuse pour chercher tout le temps l'information. Bien sûr, pour le moteur, c'est l'APF. Pour le polyhandicap, c'est l'association Noémie. Et puis, il y en a plein d'autres. Mais... il ne veut pas se contenter uniquement d'une association qui correspond à la pathologie de son enfant, mais tout est à prendre partout. Enfin, il faudrait que les associations elles puissent comment dire, croiser et qu'on puisse échanger parce qu'on a chacun à apporter. Vous. Par exemple, moi, quand je cherchais une babysitter pour ma fille, parce que j'ai eu à chercher une babysitter, je ne savais pas où m'adresser. Et puis, en allant à un groupe de parents, de parole, on a échangé. Et puis, la seule association que j'ai trouvée, c'est les Papillons Blancs, qui ont un service de babysitting et qui donnent des noms d'étudiants qui veulent bien faire du babysitting. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais c'est parce que j'ai rencontré d'autres parents et que j'ai pu en parler. Sinon, j'aurais pas eu forcément l'information. Où est-ce que j'aurais pu la trouver? Ce qui manque, c'est quelque chose qui centralise les informations.
Est-ce que vous pensez que le phénomène de l'inclusion va avoir lieu, qu'elle sera intégrée dans une école normale?
Pas du tout, j'y crois pas.
Vous n'y croyez pas ?
Je pense, enfin, peut-être, mais il y a encore beaucoup de travail. Enfin.
Mais on voit qu'il y a des enfants handicapés qui viennent dans les écoles et qui peuvent apprendre à leur rythme avec des spécialistes.
Tout à fait.
Scolarité normale. D'accord. Et pourquoi pas votre enfant ?
Après, c'est difficile de savoir quelles sont les capacités de notre enfant. Hein, c'est au fur et à mesure. Donc, il y a encore. Le vivre ensemble, c'est encore un petit peu loin, quoi.
Je voulais savoir, pensez-vous que ces enfants nécessitent beaucoup plus d'amour que les autres ou alors c'est l'amour universel, c'est le même amour pour tout le monde, ou plus d'amour, peut-être un petit peu plus de chouchoutage
Évidemment qu'il y a plus d'amour, parce qu'on aurait tendance à plus chouchouter. C'est peut-être un tort, d'ailleurs. Mais l'amour fait toute la différence et tous les enfants porteurs de handicap, malheureusement, ne sont pas tous aimés.
Eh bien, on vous remercie, madame, pour votre intervention qui était très fructueuse. Merci, madame.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée. Bonjour.
Emmanuel Lelou, je suis papa d'une jeune femme trisomique qui a 27 ans, qui s'appelle Éléonore. Donc en fait, j'ai créé deux associations par rapport à la trisomie, une association départementale dans le Pas-de-Calais qui s'appelle Down Up et une autre à Arras, tout à fait. Et on a dernièrement réalisé une résidence intergénérationnelle qui intègre des personnes trisomiques dans la résidence. Et ensuite, je préside aussi le collectif Les Amis d'Éléonore, qui est un collectif qui travaille au niveau national pour changer le regard porté sur la personne différente.
Je voulais savoir quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées en tant que papa par rapport au handicap de votre fille, les difficultés sociales, médicales, etc.
Alors oui, beaucoup de difficultés, ça a été un parcours un peu du combattant. Éléonore est née trisomique, donc forcément quand on est trisomique, en principe, il y a 27 ans, on ne devait pas vivre. Donc clairement, les médecins nous ont annoncé ça comme étant une aberration chromosomique. C'est fou, aberration, dans le terme. Mais pour eux, ce qui était bien, c'est qu'Éléonore avait une cardiopathie et il ne lui donnait que 15 jours de vie. Donc l'annonce a été faite comme ça. Mais seulement Éléonore, on l'a prise à la maison comme un enfant. On peut dire ça comme ça, oui. Et on a considéré que c'était un enfant et non pas une personne handicapée. Donc on l'a prise comme notre enfant, avec tout l'amour qu'il fallait. Et puis à l'âge d'un an, on a dû opérer le cœur parce qu'en fait, ça s'est pas très bien passé parce qu'elle a attrapé une maladie nosocomiale à l'époque. Ça a donc été 3 mois et demi sur le champ opératoire. Mais en fait, elle avait décidé de vivre, donc elle s'est battue et ensuite elle a fait. Après, on s'est battu nous pour qu'elle ait un parcours en milieu ordinaire. Donc c'est une personne trisomique qui n'a pas du tout fréquenté d'établissement spécialisé. Ça, on s'est refusé. On s'est battu même en justice pour la maintenir en milieu ordinaire. Et ça, aujourd'hui, c'est une jeune femme trisomique qui travaille, qui a un CDI dans une entreprise. Ouverte. Donc c'est un parcours complètement. Donc c'est quelqu'un de malade de l'intelligence, comme on dit, hein, mais qui est dans une entreprise ordinaire.
Je vais en parallèle avec l'association de Lorette Fugain. Est-ce que vous collectez vous avez une association vous aussi ? Est-ce que vous voulez que vous collectez des fonds ou est-ce que comme un peu comme ça pour enfin avancer la recherche au niveau de la trisomie ?
Ah oui, donc alors le problème c'est que la trisomie, justement, il n'y a pas du tout de fonds publics qui aident la recherche, ça n'est que des fonds privés. Or on n'est pas très loin de trouver des médicaments qui pourraient
freiner la maladie.
Oui, tout à fait. Et on a besoin effectivement d'argent. Donc moi là, dernièrement, j'ai constitué un groupe européen Et on part en guerre au niveau de l'Europe parce qu'il y a un nouveau diagnostic qui s'appelle le Prénatest, qui va finalement essayer de, avant, pour ne plus faire d'amniosynthèse, de détecter la personne trisomique. Donc c'est une stigmatisation de la trisomie. Ça veut dire qu'on veut limiter les trisomiques. Donc moi je demande aux États européens que 1 euro donné pour le test, ça doit être 1 euro pour la recherche pour la trisomie. Donc là je pars en guerre en fait avec 20 associations européennes pour faire pression, parce qu'il faut savoir que le Prénatest coûte en France 1200 euros et qu'il y a 850 000 naissances par an. Vous, je ne sais pas si vous voyez le budget que ça représente, et que le laboratoire américain qui a lancé ça, il annonce déjà 10 milliards de chiffres d'affaires. Donc c'est une honte. Donc ça veut dire que les États sont eugéniques et que demain, on va naître que si médicalement on est parfait. Donc c'est mettre le doigt dans un engrenage. Donc ça c'est le collectif Les Amis d'Éléonore qui défend ça. Parce qu'en fait, ce que j'ai voulu à travers le collectif d'Éléonore, c'est que une personne trisomique aille défendre elle-même sa condition. Donc Éléonore est allée lors de la dernière révision de la loi de bioéthique. Elle est intervenue plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Elle a été reçue par le Premier ministre et tout ça. Et elle défend sa cause. Elle défend la cause des personnes trisomiques. Et en fait, le fait que, en général, les personnes trisomiques, personne ne les avait vues s'exprimer. Tout le monde pensait qu'ils ne savaient pas s'exprimer. Or, ils savent s'exprimer. Ils pensent comme nous tous. Donc, plutôt que de penser qu'ils sont incapables, non, ils sont capables. Et dès le moment où on sait les regarder comme étant capables, eh ben, ils déploient tout ce qu'ils ont en eux.
Mais c'est en même temps le but peut-être de ce genre de journée, puisque de vous réunir et de dire, voilà, un corps commun, le handicap, point. Et ensuite, on va tous ensemble.
Voilà.
Voilà, c'est ça le but.
Mais c'est ça, exactement ça.
Parce que vous, visiblement, d'après ce qu'on... hors radio avec M. Magnier, vous avez 20 ans de lutte derrière.
Ouais,
20 ans.
Oui, 27.
Seul. Ouais. 27, pardon.
Oui.
Donc, je ne sais pas comment vous avez fait pour tenir.
Mais moi, c'est 27 sans... C'est-à-dire, c'est 27 ans de liberté aussi. Parce qu'en fait, j'ai refusé toute... J'ai pas de prix de journée. Je suis une association complètement autonome qui peut dire... tout ce qu'elle veut à un conseil général, à une institution, parce que je ne dépends pas d'eux. Donc le principe et le fondamental, c'est que je me suis dit, je vais me battre, mais avec mes moyens ou avec des moyens que j'irai chercher moi-même, mais je ne dépendrai de personne. Et ce combat, finalement, il est certes un peu plus difficile, parce que plus solitaire, mais en même temps, et aujourd'hui, dans ce qui est réalisé, par exemple, à Arras, dans cette résidence intergénérationnelle, le conseil général, maintenant, vient... Et cassent toutes les lignes, finalement, ils s'aperçoivent qu'il y a des solutions nouvelles qui existent. Et là, on a réussi une expérience inclusive, c'est-à-dire que vivent dans un même lieu 10 personnes trisomiques qui ont signé elles-mêmes leur bail, qui ne sont ni sous tutelle, ni sous curatelle. Elles sont complètement autonomes. Elles sont à côté de 35 personnes âgées et de 25 couples avec enfants et d'une crèche d'entreprise de 30 lits. Tout ce monde-là vit. On a créé à l'intérieur de la résidence un café social. Il y a du café qui est servi par des personnes trisomiques qui ne travaillent pas, mais qui se donnent une raison sociale. On a mis en place un ramassage de déchets ménagers verts, le lombricompost. Ça veut dire que ça permet à des personnes trisomiques d'aller chercher le biosau chez une personne âgée qui n'ose pas sortir de chez elle, qui est toute seule, qui manque de visite. Elle va chercher le biosau régulièrement, elle fait le lombricompost et ça crée du lien. C'est du lien social.
C'est vous la radio des entonnoirs.
Ah, ben c'est super. Là, mais en fait, moi, je suis dans un métier de la communication. Et je me disais, en vous voyant, il faudrait faire une télé comme ça. Il faudrait faire une télé.
On passe
Et moi, vous venez à Arras, je vous mets en place une télé. Voilà. Et non, mais ça fait partie de mes projets parce que je pense que une façon aussi de créer de l'inclusion, c'est de donner la parole. C'est-à-dire que moi, souvent, en tant que père ou en tant que président d'association, je n'ai pas le droit de parler pour Éléonore, je n'ai pas le droit de parler pour les autres personnes trisomiques. C'est eux et c'est elles-mêmes qui doivent parler pour elles-mêmes. À chaque fois que je parle pour elles, ça veut dire que, quelque part, je pense qu'elles ne sont pas capables d'exprimer ce qu'elles ont à dire. Donc, je veux dire qu'un média comme celui-ci, eh ben, il permet à chacun de s'exprimer. Et voilà.
Famille s'agrandit.
La famille s'agrandit très très. Excellente.
Eh bien, on vous remercie.
Merci.
On
va vous remercier, vous. Merci. Merci. Je vais descendre. Hein. Merci. Merci.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Bonjour à vous, je m'appelle Sylviane Delacroix, je suis adjointe au maire de Lille et ma délégation est celle des personnes handicapées et de l'accessibilité.
Donc ma première question, ça sera qu'est-ce que vous faites exactement tous les jours, on va dire, en tant qu'adjointe au maire donc, pour les handicapés. Et voilà, c'est ma question. Qu'est-ce que vous faites tous les jours donc, en tant que...
Tous les jours, c'est un grand travail d'interpellation de mes collègues pour que dans toutes les politiques de la ville, quelles qu'elles soient, la question de l'accessibilité soit intégrée et qu'elle soit intégrée de la manière la plus positive qui soit, à savoir une accessibilité pour tous. Dans une ville, il y a bien sûr les bâtiments et on a des obligations en matière d'accueil des publics, mais il y a aussi l'école, il y a aussi le sport, la culture, et chaque jour, il y a un certain nombre de sensibilisations à remettre sur le métier.
Je voulais savoir, aujourd'hui on parle d'inclusion, madame, si on veut résumer, c'est l'intégration sociale des personnes handicapées. Et pensez-vous que l'inclusion dans notre société, dans la ville de Lille, est une utopie, ou alors on peut y arriver vraiment à force de travailler ensemble?
Alors je pense que, d'abord je voudrais dire que les utopies c'est parfois ce qui fait avancer les choses et moi je suis volontiers sensible à l'utopie. En même temps, on n'y est pas encore aujourd'hui et c'est un cheminement et je crois que c'est une des réflexions importantes de cette matinée à mes yeux. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. C'est un cheminement qui doit faire partir de ce qu'on connaît aujourd'hui à la ville de Lille qui est un peu une démocratie participative à une véritable citoyenneté. C'est-à-dire à la fois prendre en compte les représentants, les associations, mais aussi les personnes. Et je crois qu'il y a des enjeux très forts de société, de conception de la société. Moi, je suis pour mettre l'humain d'abord, l'humain au cœur des préoccupations, et que ce soit dans la décision, que ce soit les budgets, ce sont les budgets qui sont au service des hommes et non les hommes au service des budgets. Et il y a plein de sujets derrière. Et je crois que dans les questions qui sont posées ce matin, il y a à la fois ce cheminement et il y a à la fois un très grand débat sur quelle société voulons-nous, quels sont les rapports que nous envisageons entre les hommes et les femmes, est-ce que nous sommes des citoyens tous à égalité avec des responsabilités diverses, des positionnements, est-ce que on est tous parents, tous différents et on accepte à la fois cette parenté et cette différence. Moi je suis en tout cas pour qu'on avance sur ce chemin.
Oui, moi je voulais revenir sur ce que vous avez dit au tout début en vous présentant, que votre rôle c'était surtout de rappeler à vos collègues, effectivement, dans les projets, les normes, les législations, les choses comme ça. Comment c'est perçu au sein de la mairie, on va dire de l'administration, avec qui vous travaillez, votre mission et aussi toutes ces contraintes, entre guillemets, j'aime pas employer ce mot, mais je pense que peut-être pour eux c'est perçu comme ça, enfin tout ce qui doit être, toute l'évolution qu'il devrait avoir, est-ce que celle-là elle est bien acceptée au final, ou s'il y a encore des réticences, des choses comme ça?
Alors, très, très sincèrement, c'est parce qu'on me demandait ce que je faisais tous les jours, donc ça c'est le quotidien. Il y a à la fois une volonté, une vraie volonté, mais une volonté, alors pour être très franche, qui tient souvent au bon sentiment plutôt qu'à l'intégration complète de la problématique. Ce que je ne supporte pas en tant qu'élu, c'est quand on me dit « c'est vrai, ça pourrait m'arriver d'être en situation de handicap ». Certes, on doit se projeter, mais on intervient au nom de la puissance publique, pas parce qu'on pourrait vivre une situation, parce qu'on est au service d'une population et qu'on s'est engagé à travailler sur l'égalité des droits, des chances et l'accès à la citoyenneté. Donc ça, pour moi, c'est déjà le premier signe d'une réticence, en tout cas d'une non-appropriation totale de la problématique. Après, vous savez où en sont les collectivités. Il y a toujours, et ça a été évoqué ce matin, de bonnes raisons, soi-disant budgétaires ou financières, de dire c'est pas possible, c'est difficile, c'est compliqué. Donc il faut rappeler que ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, qu'il n'y a jamais d'impossibilité technique. Je n'ai jamais vu, j'ai travaillé sur différents bâtiments, une incapacité technique. Après, quand il y a des coûts, ils peuvent être analysés, ils peuvent être travaillés, ils peuvent être planifiés. Et l'autre aspect, alors, qui là, pour moi, est aussi important, et vraiment, dans la ville, ça commence à évoluer. Notre commission communale s'appelle la commission Lille ouverte à tous, et de plus en plus souvent, mes collègues des autres délégations, avant de sortir un projet, viennent le présenter à la commission. Je ne vous dis pas que tout est résolu, il suffit de se promener dans l'île pour le savoir, il suffit d'interpeller un certain nombre d'associations. Parfois, les dossiers sont discutés, analysés, amendés, mais au final, on ne voit pas forcément toutes les réalisations, mais les choses bouge dans le bon sens. Et c'est tant mieux parce que il y a beaucoup de nécessités. Et en même temps, je crois qu'aujourd'hui, on peut passer un discours sur l'accessibilité pour tous.
Bon, bon.
Merci à vous.
Merci à beaucoup vous, à vous, hein, madame.
Merci.
Je suis Madame Dereau Véronique, je suis la présidente de l'association Trisomie 21 Nord, qui existe depuis 1984 sur le département. Je suis en même temps parent d'un jeune homme qui a aujourd'hui 33 ans. Et la spécificité de l'association, c'est d'avoir, de s'être créée de façon à permettre aux personnes porteuses de trisomie de pouvoir vivre leur vie au milieu des autres, plutôt que d'être condamnées dès la naissance à aller dans les établissements spécialisés de la naissance à la mort. Et donc, on s'est créé avec quelques parents qui avaient cette même perspective, et après avoir pris connaissance dans d'autres endroits en France de réalisations qui étaient intéressantes au niveau de l'intégration de ces personnes dans le milieu ordinaire, à l'école d'abord et puis après dans les autres milieux. L'association, elle rassemble les personnes qui, dès la naissance, donnent naissance à un enfant porteur de trisomie. Donc, c'est un handicap qui est décelé dès la naissance et dont l'objectif est d'essayer de vivre avec le mieux possible et d'éviter que l'enfant soit mis en dehors de la société. Et donc, dès la naissance, on va à la rencontre des familles et on leur propose le projet qu'on a développé depuis que nous-mêmes, on a été concernés et qui est développé par d'autres associations en France, à savoir la possibilité de vivre au milieu des autres dès la naissance, que ce soit dans la famille d'abord, dans les milieux culturels ouverts à tous, à l'école et ensuite dans la cité, dans le logement, dans les loisirs, au travail.
Je suis de la même association Trisomie 21 Nord. Au début, quand on a commencé à parler, donc il y a 30 ans, d'intégration au milieu ordinaire, on nous a traité en C2S d'intégrisme de l'intégration. Puis après, à force de se battre, il y a la loi 2005 qui est apparue, qui permettait aux parents de choisir ou une vie en milieu institutionnel ou une vie en milieu ordinaire. Alors c'est fort de ça qu'aujourd'hui, qu'on a continué à faire ces parcours. Et dans Nord, aujourd'hui, on est une association qui suit à peu près 600 personnes, hein, difficilement, ça a été très dur, avec la création de 3 ou 4 services, et surtout, à notre charge pleine et entière, tous les frais de justice, de recrutement, de tout ça. Alors, quand on parle d'association, nous, on se méfie beaucoup, parce qu'on ne dit pas association de quoi. Est-ce que c'est des associations d'établissement gestionnaire, ou est-ce qu'il s'agit d'associations de personnes qui donnent la parole aux usagers? Et ça, au niveau de la démocratie sanitaire, c'est très important, parce que autant dans la représentation on voit des syndicats d'employeurs et des syndicats de salariés, mais chacun a sa représentation. Or, dans la CRSA, qui est un organisme régional de l'ARS, il y a peu de cette représentation. Aujourd'hui, alors on est quand même heureux d'entendre tous les discours qui favorisent l'intégration en milieu ordinaire, sauf qu'effectivement, il y a toute une politique, publique, qui ne facilite pas toujours cette bonne compréhension des solutions, comme vous dites, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Alors, ça ne veut pas dire que quand on veut intégrer en milieu ordinaire, qu'on veut porter préjudice aux établissements. Hein. Il y a un respect profond, mais qu'au moins on respecte ce qu'ils appellent le libre choix.
Donc si j'ai bien compris, les hôpitaux et autres sont bien occupés de votre enfant, mais est-ce qu'il arrive à un point où il arrive à s'autonomiser, à séparer un peu de la famille
mère, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, et ce matin vous avez entendu parler... Ce matin, vous avez entendu parler d'autodétermination, d'empowerment et je ne sais pas trop quoi. Là. Si vous voulez, nous, au départ, quand on s'est dit qu'on voulait autre chose pour notre enfant, on est allé voir partout ailleurs ce qui pouvait exister, qui allait dans ce sens-là. D'accord. Et on s'est aperçu très tôt que si notre espoir était qu'il aille vivre au mieux des autres, il fallait lui donner les outils pour qu'il puisse vivre au mieux des autres. À savoir, et c'est jamais évident quand on a un enfant handicapé, qu'on s'est vulnérable, de ne pas être dans la surprotection ou dans le déni, comme on nous accusait d'ailleurs à un moment. Et donc d'adopter la bonne attitude pour l'aider, lui d'abord, à être lui-même, à faire le constat que son handicap, eh ben, malheureusement, il va falloir qu'il vive tout le temps avec, mais qu'après tout, il est capable de faire des choses. Et par exemple, avec notre fils, nous, ce qui nous a le plus surpris, donc on l'a traité comme son frère, comme sa sœur. On a eu les mêmes exigences. On a été plus exigeants sur certains aspects où il avait besoin de normes bien précises et il avait besoin d'être bien cadré pour pouvoir après s'envoler sans faire d'erreur, j'ai envie de dire. Alors que pour les autres, ça a été un peu plus facile. Mais ça ne l'a pas empêché, contrairement à ce qu'on nous racontait à la naissance, d'acquérir la marche assez facilement, d'apprendre à faire du vélo, de faire du vélo assez facilement, d'apprendre à nager et finalement d'aller faire du ski. Alors qu'au départ, à la naissance, on nous disait, mais un gamin trisomique, de toute façon, ça ne s'est pas marché avant tel âge. On nous a même incité à l'abandonner parce que c'est une sacrée charge pour la famille. Enfin bref, on a entendu des choses incroyables. Et justement, dans deux mois, c'est la journée mondiale de la trisomie. On a été appelés par l'hôpital de Villeneuve-d'Ascq pour venir témoigner auprès des milieux hospitaliers de ce que pouvait devenir un enfant avec une trisomie quand il était normalement accompagné dans la vie pour pouvoir vivre sa vie à lui et non pas la vie qu'on avait décidé pour lui. Et ça nous a été demandé parce que à l'hôpital, ils ont eu des naissances il n'y a pas longtemps et ils se sont aperçus, ils en ont eu plus que d'habitude et ils se sont aperçus à quel point ils étaient gênés pour donner de l'espoir aux familles et ils avaient donc besoin d'avoir un autre regard sur ce qu'est la vie d'une personne porteuse de trisomie aujourd'hui. Et ces contacts-là nous ont amenés à préparer une soirée commune à l'intention des médecins, à l'intention de toutes les personnes qui sont en contact avec les personnes handicapées pour les accompagner vers le milieu ordinaire, de façon à faire le point et à leur montrer que vivre dans le milieu ordinaire quand on a une trisomie, c'est possible. Et ça sera des trisomiques qui viendront montrer ce qu'ils sont capables de faire. C'est vrai que le fait de favoriser la présence des personnes handicapées dans le milieu ordinaire, c'est évidemment souhaitable pour la personne handicapée, mais c'est tellement souhaitable pour la société.
Et là, du coup, ça me donne envie de vous poser une question, mais qui est un peu noir ou blanc, quoi. C'est une question un peu provoque. D'après vous, justement, l'inclusion, aujourd'hui, on en parle, mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose... est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est une réalité? Parce que si on... Ma réflexion va un peu plus loin. Si on prend la réalité, la société comme elle fonctionne, les images qu'on nous montre, il faudrait, c'est chacun pour soi, je caricature, hein. Il faut être productif, rentable, il faut toujours être quasiment au top de sa forme, avoir une image très, très lisse, enfin, on est quand même dans une société qui renvoie quand même une image assez normative. Aujourd'hui, on parle d'inclusion de ça, mais derrière, dans les médias, c'est pas du tout ce qui ressort. Ou ça ressort sur des initiatives très ponctuelles, où c'est on va faire notre BA de la bonne année, de l'année, on va faire notre Téléthon, on va faire des choses comme ça. Et après, on va mettre de côté. La santé mentale, nous qui nous sommes confrontés à ça, c'est le parfait exemple. Moi, en tant qu'infirmier de psychiatrie, je suis stigmatisé au quotidien. Quand je dis que je suis infirmier, on me dit tu sautes sur les gens, tu les attaches, tu leur fais des piqûres. Et je pense que les patients, s'il y en a un qui dit qu'il est schizophrène ou psychotique, tout le monde va commencer à avoir peur de lui. Donc voilà, donc je reviens à ma question de base, c'est d'après vous, l'inclusion aujourd'hui, est-ce que vraiment c'est pas quelque chose d'utopique au final ?
Alors, je serais dans l'affirmative si on n'avait pas notre expérience de 30 ans quand même. À savoir que quand il y a 30 ans, on a dit publiquement qu'on souhaitait que notre gamin il aille à l'école comme tout le monde tant que c'était possible, mais on nous a traités de tout. De parents bourgeois qui étaient dans le déni du handicap, qu'on se rendait pas compte du niveau de notre gamin, que de toute façon des trisomiques c'était des arriérés profonds, qu'est-ce qu'on allait foutre avec un gamin comme ça à l'école, enfin bref, on a entendu toutes les couleurs. Sauf qu'il y a un inspecteur qui a dit, un inspecteur éducation nationale, qui avait eu lui-même un enfant porteur de trisomie, je pense, ou en tout cas handicapé, puis qui nous a dit, bah après tout, chiche. Puisque vous voulez prendre le risque, prenez-le. Mais on l'a pris. Ils nous ont pas fait de cadeaux. Ça a été très difficile. N'empêche que ce qui nous a le plus marqué, c'est que la première fois, la première année où on a trouvé une solution dans une école pour Guillaume et on a pu parler avec les responsables de l'éducation pour dire quelles étaient les conditions pour que sa scolarité réussisse et que du coup, on avait bien conscience et on ne voulait surtout pas que ce soit quelque chose qui lui soit réservé à lui, mais que ce soit quelque chose qui soit ouvert à d'autres, sinon ça n'avait pas de sens. Donc ils ont commencé à jouer le jeu qu'on souhaitait qu'ils jouent. L'année d'après, c'était plus seulement les trisomiques qui voulaient intégrer, c'était tous les autres types de handicap. Et après, ils ont été débordés. N'empêche que quand on a commencé en 84, à ce moment-là, toute la législation sur le handicap, elle n'existait pas. À la limite, par moment, c'était presque plus facile qu'une fois qu'on a légiféré. Parce que cette fois-ci, on a donné des règles et on s'est servi des règles pour refuser l'intégration pour certains. Alors, une fois qu'on a dit ça, dans les 30 ans d'expérience associative qu'on a eue, on a bien été obligé de constater que l'intégration a fait des progrès. Ça reste toujours la guerre, le circuit de l'intégration pour des familles, pour un oui ou pour un non, surtout quand c'est la déficience mentale. On vous dit qu'il n'est pas du niveau, on vous dit qu'on n'a pas les moyens, on vous dit qu'il n'y a pas d'AVSI, on vous dit que l'école n'est pas partante, on vous en raconte de toutes les couleurs. Et s'il n'y avait pas d'association, c'est sûr que les parents, ils abandonneraient très facilement. Alors que notre travail de responsable d'association, c'est de rassurer les parents sur le choix qu'ils ont fait en leur disant qu'ils ont actuellement la réglementation, la législation en leur faveur, qu'il faut qu'ils en usent et qu'ils en abusent. Mais quand on est parent d'enfants handicapés, on a quand même toujours peur d'être un poids pour la société. Même si on est un peu émancipé, on a l'impression qu'on emmerde le monde et qu'on ne veut pas l'emmerder plus. Et donc, y en a qui jouent sur cette corde-là pour dire « vous voyez bien qu'ils ne sont pas intégrables ». Une fois qu'on a dit ça, si vous-même vous regardez les émissions de télé et si vous êtes un petit peu à l'affût, vous vous apercevez que de temps en temps et beaucoup plus fréquemment qu'avant, on voit des personnes porteuses de trisomie qui réussissent à leur intégration scolaire, qui réussissent à l'école, qui réussissent au travail, qui réussissent dans leur vie tout court, dans leur vie personnelle. Et s'il y avait 33 ans, on avait pu savoir ce qui se passerait pour notre fils, on aurait sacrément moins paniqué à la naissance. Aujourd'hui, il a un boulot en milieu ordinaire, il a un travail en milieu ordinaire, avec un accompagnement parce que la déficience est là, mais il fait ses choix, il a son logement, et il vit sa vie la plus autonome que ce qu'on pouvait espérer pour lui. Et à côté de ça, il a un frère et une sœur qui, eux, sont pas handicapés. Aujourd'hui, je ne mettrai pas ma main au feu duquel des trois est le plus heureux dans la vie. Parce que ce que disait ce matin un des intervenants aussi est vachement important, c'est que sa vie, c'est la sienne. Et ses sensations et ses aspirations et son psychique, c'est le sien. Et il ne correspond pas à ce que nous, on pense de ce qu'est sa vie. Sa vie, c'est la sienne. Et combien de fois il ne nous a pas surpris quand il était petit et qu'on avait peur qu'il fasse quelque chose, il nous disait tout le temps « Allez, maman, essaye un coup, maman, essaye !» Et à chaque fois, si on prenait le risque, c'était un peu notre philosophie, vaut mieux 4 ans heureux que 40 ans malheureux, donc on y allait. Et à chaque fois, quand il nous disait « Allez, essaye », on s'apercevait qu'il avait raison.
On vous remercie pour merci cette intervention. On retiendra qu'il faut tirer les gens vers le haut.
Toujours tirer vers le haut. Ah oui, complètement. Il faut jamais lâcher.
Les entonnoirs.
Alors, on vous laisse vous présenter pour cette journée aujourd'hui sur l'inclusion. Monsieur.
Donc, Hervé L'Herbier, directeur régional de l'Association des Paralysés de France en Nord-Pas-de-Calais.
Monsieur.
Bruno Chevrier, je suis le directeur général de l'URAPI, l'Union des régionales des APEI, mais je suis surtout l'animateur du comité d'entente régionale de toutes les associations qui s'occupent de personnes handicapées. Voilà, c'est pour ça que je suis là.
De la région ?
De la région Nord-Pas-de-Calais, voilà, le comité d'entente régionale.
Pour cette journée d'aujourd'hui, qu'attendez-vous justement en tant que responsable régional ?
Alors, c'est difficile à dire comme ça. On aurait tendance à dire que c'est forcément une prise de conscience qu'on en attend et surtout une nécessité de penser que ce que les associations vont mettre en œuvre demain en termes d'accompagnement des personnes en situation de handicap sera différent de la façon dont on a eu de conduire les actions il y a 10, 20 ou 30 ans. Le concept en fait d'inclusion tel qu'on a pu en fait en discuter ce matin et on l'a rappelé ce matin, donc c'est vraiment en fait un concept qui s'inspire en fait aujourd'hui des textes européens pour des villes en fait, pour des cités ou pour des villes les plus inclusives possibles, avec derrière en fait une volonté que l'on a tous, c'est de faire en sorte que ce ne soient plus les personnes en situation de handicap qui s'adaptent à l'environnement, mais c'est bien l'environnement, donc la cité, l'environnement qui s'adapte aujourd'hui à la déficience. Voilà en fait donc évidemment concrètement dans nos chaumières en fait, on doit revisiter en fait les pratiques et prendre largement en considération les souhaits, les projets, les idées des personnes qui sont elles-mêmes en fait au cœur de cet accompagnement.
Mais c'est une révolution.
Oh, écoutez, on n'a pas encore coupé de tête, mais une révolution, je ne sais pas, mais en tout état de cause, c'est un phénomène, c'est un phénomène sociétal, en fait, qui ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, hein, mais tout à chacun. Et puis je pense que ce que l'on gagnera, en fait, au travers de cette révolution, pour reprendre votre propos, profitera, en fait, à l'ensemble, aujourd'hui, des citoyens, qu'ils soient valides ou pas.
De l'humain.
De l'humain, si vous le souhaitez.
Et vous ?
Oui, je confirme. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Hein, c'est que tout ce qu'on peut faire pour rendre la société plus accessible aux personnes handicapées, c'est valable pour les autres. Donc, on ne peut pas se tromper. On ne peut faire que mieux. Donc, il n'y a pas de question à se poser, il faut y aller. Parce que quand on améliore l'accessibilité, par exemple, je pense aux personnes handicapées mentales qui ne savent pas bien lire et écrire. Bon, eh ben, si on les aide à mieux avec des dessins, des pictogrammes, etc., eh ben, on va aider aussi les gens qui ne savent pas lire et écrire, les analphabètes, les migrants, les personnes âgées, etc. Enfin, voilà, il y a plein de bonnes nouvelles en disant, voilà, l'accessibilité de la société, l'inclusion, c'est une façon de vivre ensemble dont tout le monde va bénéficier. Voilà, c'est un peu aussi. Ce matin, il y avait des éléments un petit peu théoriques, mais derrière ces éléments théoriques, il s'agissait aussi de faire passer ces messages-là, ouais, qui seront d'ailleurs relayés le 4 avril, puisqu'il y aura une autre étape, où là, dans le 4 avril, on sera beaucoup plus concret, puisqu'il y aura des témoignages de terrain. Hein.
Je voulais savoir, en matière d'inclusion, est-ce que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur au niveau intégration sociale ?
Alors, moi, j'ai parlé pour nous, en fait. Donc là, pour l'APF, vraiment, en fait, des projets inclusifs, il y en a, il y en a deux, en fait. Je pense qu'il y en a deux qui me viennent en tête. Donc, un ici sur Lille, qui est mené avec la ville de Lille, le CCAS de Lille, et une association qui s'appelle Génération et Culture, donc qui s'occupe plutôt en fait du volet logement pour les personnes vieillissantes. Et le projet en fait verra le jour rue Barthélémy de l'Épaule. Donc c'est une résidence qui va accueillir en fait la plus grande des mixités, on va dire, sociales, y compris logement personnes vieillissantes, personnes âgées. Et c'est même un projet qui va en fait entraîner du développement économique, puisqu'en fait on fait le pari aussi, en même temps que la montée en charge de ce projet, c'est d'inviter en fait des chefs d'entreprise en fait sur un plateau technique de 300-400 m² pour aussi amener de l'activité en fait économique en même temps en fait qu'un projet logement. Donc voilà, ça c'est un. Et puis on a un projet commun en fait que l'on travaille sur le littoral en fait à Calais avec l'API en fait et l'APF, qui est en fait de réimplanter dans le cœur de ville pour nous en fait une partie commerciale en fait d'un ESAT sur les métiers de la communication. Et pour l'API en fait c'est de ramener à peu près dans les mêmes locaux un accueil de jour à une ferme pédagogique. Donc voilà, ça ce sont des projets. Hier c'était des projets qui étaient plutôt en fait dans les je vais dire en dehors des villes, hein, puisque peut-être qu'on ne les mettait pas assez en avant. Et là, vous voyez, ce type de projet-là, c'est vraiment ramener en fait le médico-social et des activités aujourd'hui sous forme de vitrine inclusive de centre-ville. Ça, c'est des projets en fait aujourd'hui qui sont un peu révolutionnaires.
Oui, je pense que l'avenir, c'est les projets de mixité qui sont importants. C'est-à-dire de concevoir, on l'a dit tout à l'heure dès le début, et ensuite de dire, voilà, dans un endroit, ils peuvent vivre ensemble des personnes handicapées, des personnes âgées, des enfants, etc. Et on commence à voir maintenant des projets comme ça intégrés, où chacun se rend service mutuellement, et chacun trouve, et on retrouve finalement une mixité sociale qui malheureusement est un peu disparue de nos villes, où on a des quartiers un peu, voilà. Donc si le handicap permet de retrouver de la mixité sociale, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est aussi une force. On peut être un renouveau de la mixité sociale grâce au handicap. Voilà.
Merci.
Donc, Monsieur Cobo et Monsieur Routier, bienvenue dans cette émission. Donc, j'aimerais, si c'était possible, que vous présentiez donc, vous présentiez un petit peu tous les deux, ou chacun à votre tour, et ce que vous faites exactement. Voilà, Monsieur Cobo.
Alors, moi, je suis responsable du Centre d'éthique médicale. C'est un centre de recherche et de formation sur toutes les questions éthiques qui se posent dans la prise en charge et le soin, l'accompagnement des patients, mais de plus en plus largement aussi dans tout l'accompagnement des personnes dans les institutions, dans les différents lieux médico-sociaux. Donc, et qui réfléchit aux questions que pose la prise de décision dans des situations complexes et qui réfléchit cela avec les personnes concernées.
Et donc, quant à moi, je suis responsable d'une unité de recherche qui travaille dans le champ du handicap et de la dépendance sur les questions notamment de participation sociale. Alors, c'est vrai qu'on essaye de travailler beaucoup au contact de différents terrains de recherche. Ça va de services d'accompagnement à domicile à des structures hospitalières peut-être plus classiques. On travaille beaucoup dans le champ des sciences humaines et des sciences sociales. Et puis on essaye surtout, quand on développe une recherche, de la développer avec les personnes concernées. Et quand je dis les personnes concernées, c'est souvent avec les professionnels, parce que c'est vrai que c'est eux, initialement, qui viennent nous chercher pour réfléchir sur l'accompagnement du handicap, l'accompagnement de la perte d'autonomie, de la dépendance. Mais aussi, par exemple, avec une structure sur laquelle on travaille avec Jean-Philippe Cobo, avec des personnes en situation de handicap mental ou déficience intellectuelle sur leur citoyenneté et la manière de faire changer certaines représentations là-dessus.
Et comme vous êtes là tous les deux, justement, vous disiez que apparemment vous travaillez ensemble. Donc vous faites quoi exactement tous les deux quand vous êtes ensemble en fait?
On fait beaucoup de choses quand on est ensemble. Déjà, on essaye d'échanger un petit peu sur nos approches, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais de formation, initialement, je suis psychologue. Et si aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des collègues qui sont aussi plutôt en sociologie ou en communication comme discipline, je n'ai pas forcément la même approche de la recherche. Je suis quand même très orienté sur des aspects empiriques dans la pratique et puis essayer d'être dans des formes d'action particulières quand on développe certaines recherches. Là où, mais Jean-Philippe précisera, lui a une entrée qui est peut-être un petit peu différente. Donc on se rejoint sur l'idée de, il faut faire quelque chose dans le concret, dans le réel, avec les personnes. Mais là où on se complète, c'est qu'on ne le voit pas tout à fait de la même manière quand on retourne après dans notre bureau et qu'on essaie d'y réfléchir un petit peu, même si on réfléchit aussi quand on est dans l'action.
Oui, effectivement, moi je suis juriste et philosophe de formation, donc je réfléchis là où Cédric et son équipe réfléchit à ou tentent d'essayer de d'écrire et d'analyser les choses. Moi je tente de réfléchir à comment devraient être les choses. Mais là où on se rejoint et la raison pour laquelle on travaille ensemble, c'est que notre conviction est que pour réfléchir à aux questions qui se posent dans le domaine des soins, de l'accompagnement du handicap, etc., il faut absolument le faire avec les personnes concernées, que ce soit pour analyser les problèmes ou que ce soit pour trouver les solutions et les principes pour pouvoir agir ou pouvoir améliorer les choses, il faut absolument le faire avec les personnes. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on travaille ensemble.
Et ces réflexions, elles sont respectées par les politiques, toutes les réflexions que vous menez là, comment elles arrivent justement, parce qu'il faut mettre en place après toutes ces politiques, il y a de la recherche. C'est votre travail. Ensuite, il faut mettre ça en place. Vous êtes d'accord? Comment ça marche, le lien qui est entre vous, votre recherche, et ensuite toute cette mise en place concrète?
Alors, je pense que ça, c'est une grande question que vous posez là, et qui est d'ailleurs un peu au cœur de la journée d'aujourd'hui. C'est de savoir comment, aujourd'hui, on peut faire évoluer les politiques pour une société plus inclusive. Et donc, là aussi, le pari qu'on fait, c'est de repartir, d'une certaine manière, des problèmes de terrain pour essayer de montrer ce qu'ils sont et pour travailler avec les personnes à déterminer des solutions. Et donc, effectivement, ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire remonter ces démarches, ces réflexions, pour trouver, je dirais, des modalités politiques de renforcement de cette implication des personnes dans la recherche de solutions.
Du coup, moi, je voulais rebondir, on va terminer sur cette question-là, je pense d'ailleurs, avec Ben. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que justement, laisser la place aux personnes qui sont touchées du handicap, ça, dans le processus décisionnel et pour faire monter aux politiques. Mais vous pensez pas que cette pratique, elle est complètement en décalage avec notre culture politique, même en France, où en général l'État est quand même, de manière générale, prend des décisions, fait des lois, sans forcément solliciter les professionnels ou les personnes concernées. Nous, le parfait exemple en santé mentale, la loi qui a changé il y a à peu près 2 ans, elle a été construite avec des juristes, mais jamais sans demander l'avis des professionnels de santé. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez pas que vous aurez les mêmes difficultés, vous, au vu de cette culture politique, on va dire, ou même législative, par rapport à ce combat, entre guillemets, que vous menez?
Je vais laisser Jean-Philippe conclure, mais je voudrais juste réagir là-dessus, parce que moi, ce que j'entends surtout dans ce que vous dites, c'est que nous, en tant que chercheurs, n'allons pas avoir seul ce problème-là. Le problème que vous ciblez nous concerne tous au sens social. Et c'est bien ça, à mon avis, qui va ressortir de la journée et qui fait que nos conclusions, en tout cas les miennes, en termes de synthèse, ouvriront sans doute plus de questions qu'elles n'apporteront de réponses, malgré la commande initiale. C'est de dire, mais finalement, cette question de l'inclusion comme processus, ça veut dire comment on s'y prend tous pour qu'effectivement, plus jamais, on ne décide de ce qui concernera en termes d'innovation, parce qu'on travaille aussi un petit peu dans ce domaine-là, mais de manière plus générale, en termes de vie sociale, des choses pour des personnes sans que ces personnes soient associées. Mais pas juste consulter. C'est bien l'enjeu, c'est bien ça le défi aujourd'hui, le changement de braquet, y compris quand on définit des produits technologiques au service de la santé, du handicap, de la dépendance ou autre, c'est de dire comment du début à la fin tout le monde a voix au chapitre, avec ses contraintes mais aussi son expertise. Et effectivement, c'est une dimension qui est un cran au-dessus et qui peut-être s'inscrit dans un historique où on se dit jusqu'ici on a fait beaucoup de consultants, on associe, mais in fine, dans les organes décisionnels, c'est pas encore ça que de dire les décisions sont prises par les personnes. Et on peut trouver tout un tas de raisons pour justifier cette posture-là, mais on peut aussi, comme le disait un petit peu Bruno Gorier tout à l'heure, se dire, à l'inverse, peut-être qu'il faut se dire non. Les cas sont extrêmement rares dans lesquels il est vraiment pas possible de faire sans un certain nombre de contraintes. Et renversons plutôt la manœuvre pour dire jusqu'où pouvons-nous aller à partir de là où nous en sommes et de toutes les possibilités qui existent. Et quand on sera arrivé au bout de tout ça et qu'on sera rendu compte que ça profite à tous et pas uniquement aux personnes en situation de handicap, alors sans doute on pourra se dire bon là on touche la limite quand même. Mais déjà renverser, enfin en tout cas c'est de mon point de vue, y compris en termes de recherche d'ailleurs, je profite pour en parler pour ce qui concerne nos collègues, il y a du boulot à faire.
toute petite conclusion par rapport à votre interpellation. Je pense effectivement que la culture n'est pas encore totalement celle de cette participation aux différents processus d'élaboration et de décision. Et donc c'est un vaste programme qui s'ouvre là, et donc un chantier et un long processus qu'il faut mettre en œuvre dans toutes les composantes de la société.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.